8h, c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. La peur, plus forte que la fête, sans restrictions imposées, les Français d'eux-mêmes seront-ils prudents pour Noël quand l'invité Covid casse l'ambiance, on va l'entendre. Et faire un point sur la stratégie du gouvernement, pas touche à la liberté des Français pour l'instant et tous les espoirs sur le vaccin. Les enfants pourraient commencer à le recevoir à partir de mercredi. On en saura plus avec votre invité tout à l'heure, Jérôme.
Oui, le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, invité du grand entretien. Dans 20 minutes, la vaccination peut-elle contenir la propagation du variant Omicron? Faut-il vacciner les enfants? Faut-il instaurer un pass sanitaire dans toutes les entreprises? J'attends vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Une plainte contre le préfet maritime et les secouristes après le naufrage du mois dernier dans la Manche. Une association les accuse d'avoir laissé mourir les 27 victimes du drame. Dans ce journal aussi, la liberté d'une chaîne d'infos menacée en Pologne, elle ne plaît pas au pouvoir. Les salariés de Carrefour appelés à la grève pour de vraies augmentations de salaire. La moutarde menacée par une pénurie de matières premières. Et le tour du monde en 80 jours sur France 2 ce soir, début d'une série à grand spectacle pour les fêtes.
France Inter.
Les Danois privés de loisirs, les Irlandais sous couvre-feu et le reconfinement aux Pays-Bas avec des jauges à la maison pour les réveillons. 4 invités, pas plus. En France, rien de tout cela. Un pass vaccinal pour la rentrée 2022, mais pas de restrictions supplémentaires. Inutile pour ces Français, interrogés par Laurine Benjebria. Entre la 5e vague et Omicron, ils ont déjà revu Noël à la baisse le week-end prochain.
Pour Monique, retraitée dans le Val d'Oise, Noël est synonyme de grosses retrouvailles en famille.
Ça peut aller jusqu'à 30, 35, s'il y a les frères et sœurs des conjoints.
Enfin, ça, c'était avant l'épidémie. Ce week-end, le comité sera considérablement réduit.
On ne passe Noël qu'avec notre fille et ses deux enfants. C'est toujours un peu triste. J'aime beaucoup les grands Noëls familiaux, mais on est par prudence, par précaution. On considère que c'est peut-être pas le moment de se réunir à beaucoup de personnes.
C'est son beau-frère, François, qui a pris cette décision. En pleine 5e vague, il ne se voyait pas faire le trajet depuis 7 dans l'Hérault.
On s'est dit que c'était plus sage de ne pas le faire. On entend parler de 50 000 cas par jour. Bon, c'est pas la peine de faire 50 000 un cas. Ça va être très simple. On va se retrouver, mon épouse et moi, et puis c'est tout.
Françoise aussi a modifié ses plans pour Noël. Cette retraitée avait prévu d'aller passer les fêtes chez son frère à Amsterdam.
Il faut que je prenne les transports, aller jusqu'à Paris, après bon le Thalys, dans le train, pas tout. Alors je me suis dit que c'était pas la peine de prendre des risques inutiles.
Françoise passera donc le réveillon à seulement quelques mètres de chez elle, dans le pavillon d'à côté, chez sa voisine de 98 ans.
Voilà, la prudence qui s'impose d'elle-même, c'est exactement le pari du gouvernement. Dans l'immédiat, pas question de restreindre les libertés pour Noël, Maxence Lambrec.
Pour l'instant, pas de conseil de défense sanitaire convoqué avant la rentrée de janvier. À l'agenda, un simple conseil des ministres ce mercredi avec à l'issue un rappel à l'ordre du porte-parole du gouvernement sans restrictions supplémentaires. Pour l'instant, répète bien un conseiller ministériel, on va scruter les courbes, avancer au jour le jour. Mais Emmanuel Macron a bien conscience de la très grande fatigue, lassitude des Français face aux restrictions. Et quand on voit les files d'attente devant les pharmacies, dans les centres de vaccination, on sent bien que tout le monde sera prudent, ajoute un communicant du pouvoir. L'ambiance médiatique a aussi son effet, pas besoin de porter un discours trop alarmiste. L'exécutif veut donc encore croire à une accalmie, ne pas serrer la vis trop tôt, préserver Noël, puis éventuellement sacrifier le nouvel an. Le conseil scientifique suggère un couvre-feu le 31. Cette séquence rappelle celle de janvier dernier, alors des variants britanniques et sud-africains. Emmanuel Macron avait pris son risque, ça avait fonctionné. Il refuse par exemple que les personnes âgées en EHPAD soient privées de visite en cette période. La ministre précisera tout à l'heure le protocole, équilibre difficile entre sécurité et liberté.
Effectivement, protocole détaillé à 11h ce matin pour les maisons de retraite. Tout misé sur la vaccination. C'est ça l'option retenue pour l'instant. Avec le pass vaccinal pour remplacer le pass sanitaire, le gouvernement veut le faire voter fin janvier et l'appliquer dans la foulée. Et la vaccination des enfants, Sandy Dauphin, qui pourrait commencer après-demain, mercredi.
Vendredi dernier, le Conseil consultatif d'éthique a donné un avis favorable pour la vaccination des 5-11 ans, à condition qu'elle ne soit ni obligatoire ni assortie d'un pass sanitaire junior. La Haute Autorité de Santé doit se prononcer à son tour aujourd'hui et le gouvernement attend également les conclusions du comité d'orientation pour la stratégie vaccinale mercredi matin. Ce comité est chargé d'étudier les données américaines portant sur 2 millions d'enfants vaccinés avec rappel et d'évaluer d'éventuels effets indésirables. En cas de feu vert, la vaccination des 5-11 ans pourrait commencer dès mercredi après-midi. 350 centres sont déjà équipés pour vacciner les enfants. À terme, la quasi-totalité des centres sera dotée d'une ligne pédiatrique dédiée, d'après la Direction générale de la Santé. Les médecins traitants et les pédiatres pourront aussi vacciner dans leur cabinet. Ils devraient recevoir les premières doses entre le 24 et le 28 décembre. La France a déjà reçu un stock d'1 900 000 doses pédiatriques du vaccin Pfizer, 3 fois moins dosé que la version adulte.
Sandy Dauphin, y aura-t-il un 5e vaccin autorisé en Europe? Les autorités sanitaires européennes se prononceront dans la journée sur le Novavax, un sérum américain à la technologie classique, à l'image du vaccin contre la coqueluche. L'Europe en a déjà précommandé 200 millions de doses.
27 migrants noyés dans la Manche à la fin du mois de novembre. À qui la faute?
Les passeurs sont dans le viseur qui font fortune de ce commerce humain. Mais voilà qu'une plainte est déposée contre le préfet maritime de la Manche et les secouristes françaises et anglais. L'association Utopia 56 les accuse d'être responsables du drame. Écoutez son avocat, maître Emmanuel Daoud.
Grâce au témoignage des deux survivants, nous savons que les migrants, les exilés, les réfugiés, nous les appelons comme ça, ont cherché à joindre, alors que le bateau sombrait, les services de secours britanniques et français. Ils n'ont pas porté secours à des personnes qui étaient en détresse. Et à partir de ce moment-là, nous considérons que la question des responsabilités au sens pénal du terme se pose, et il y a des autorités qui sont en charge de la coordination des secours en mer, du côté français, le préfet maritime de la Manche et du Nord, et du côté britannique, les gardes-côtes britanniques. La vérité et la transparence doivent être dues aux victimes et à leurs familles. Il y a des faits extrêmement troublants. Ce n'est pas la première fois qu'Utopia 56 a pu constater que les services de secours britanniques et français se renvoyaient la balle. On laisse dériver l'embarcation, soit sur les eaux territoriales françaises, soit sur les eaux territoriales anglaises, et on n'intervient pas.
Emmanuel Daoud, avocat d'Utopia 56 avec Nicolas Teillard sur France Info. Au Chili, la victoire de la gauche a été célébrée par ses partisans cette nuit. Le jeune Gabriel Boric, 35 ans, élu président de la République avec 56% des voix face au candidat d'extrême droite. Dans son premier discours, il a promis plus de droits sociaux dans un pays ultra-libéral. Le système de retraite, par exemple, y est entièrement privé. En Pologne, la défense de la presse a fait descendre des milliers de personnes dans la rue hier. C'est une loi du parti populiste au pouvoir qui met le feu aux poudres. Elle interdit aux groupes extérieurs à l'Union européenne d'être actionnaire majoritaire d'un média polonais. Or, c'est le cas de la chaîne d'info TVN24, propriété du groupe américain Discovery. Au nid du pouvoir polonais qui la juge trop hostile à son égard. Reportage à Varsovie, signé Sarah Bakaloglou.
Wolne Media, des médias libres, scandent les manifestants réunis devant le palais présidentiel de Varsovie. Car avec cette nouvelle loi, la principale chaîne de télévision indépendante polonaise, TVN24, se retrouve menacée, de quoi effrayer Jarosław, 52 ans.
C'est la dernière chaîne de télévision indépendante, la seule chaîne qui montre la vérité, qui ne fait pas de propagande. Le gouvernement, petit à petit, réduit nos libertés. Je suis furieux.
Car depuis l'arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice, la télévision publique a été reprise en main par la majorité, tout comme d'autres institutions telles que le tribunal constitutionnel. Selon Andrzej, la nouvelle loi sur les médias est un calcul politique.
Ils veulent gagner les élections de 2023. Pour eux, s'ils se débarrassent des médias indépendants, alors ils ont plus de chances de les gagner. Mais nous, nous voulons que les médias nous aident à savoir ce qui se passe. Car ces élections sont la dernière chance pour la Pologne de reconstruire la démocratie et de rester dans l'Union européenne.
La loi sur les médias est désormais sur le bureau du président, à lui de décider ou non de la signer. Une pétition l'appelant à mettre son veto a réuni près d'un million de signatures, selon les organisateurs. Varsovie, Sarah Bakaloglou, France Inter.
Et toujours à l'étranger, on n'est jamais trahi que par les siens. Et c'est un sénateur démocrate qui pourrait faire capoter le grand plan de réforme de Joe Biden. 1750 milliards de dollars pour faire baisser le coût de la garde d'enfants et des médicaments. Ou encore investir massivement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le sénateur Joe Manchin s'y opposera au nom de la dette. Or, il suffit d'une voix manquante au Sénat pour faire office de veto. Puisqu'au Sénat, il y a 50 démocrates pour 50 républicains.
8h10 en France. Que sont devenus les premiers de corvée.
Des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est Emmanuel Macron, avril 2020. Hommage à ceux qui sont restés sur le pont pendant le premier confinement. Les salariés des supermarchés, par exemple. Ils sont en grève chez Carrefour cette semaine. La direction leur propose 1% d'augmentation. La CGT réclame 300 euros pour tout le monde et un salaire minimum de 1500 euros net. Parole de travailleurs au Carrefour de la Pioline, à Aix-en-Provence, avec Paul Tilliez.
Derrière le magasin bonnet vissé sur la tête, on est avec Jesse, en charge de la réception des livraisons. 35 heures, 1400 euros par mois.
On ne survit pas parce que ce serait exagéré, mais on vit. Une seule personne devrait prendre entre 2000 et 2500 euros pour pouvoir vivre, c'est tout. Et si on veut gagner plus, il faut travailler plus. Quand je ne travaille pas ici la journée, je vais faire des nuits ailleurs.
Même train de vie forcé pour son collègue Fatah, réceptionnaire le jour, agent de sécurité la nuit.
Ouais, j'arrive à faire 1008.
Vous faites ça depuis quand ?
7 ans, ça va, je tiens le coup.
Il attaque à 4h du matin et il termine à 20h le soir, avec 2 heures de pause entre les deux.
Si vous voulez vous en sortir, c'est ça la seule solution.
De l'autre côté du magasin, Claude, qui fait de la mise en rayon chez Carrefour, 1300 euros par mois. Alors certes, c'est peu, mais il a connu pire.
Les gens, ils se plaignent, mais à côté, il faut compter qu'on a la mutuelle, on a un CE, on a une cantine, on n'est pas si mal aussi. Les gens qui se plaignent, c'est qu'ils n'ont jamais connu autre chose, quoi.
Le groupe Carrefour a d'ores et déjà annoncé doubler la prime inflation versée par l'État, 200 euros pour 80 000 salariés.
Paul Tilliez, France Bleu Provence. Et au rayon des pénuries, qu'est-ce qui nous manque ? Toute cette semaine, on s'intéresse aux difficultés d'approvisionnement du moment. On a beaucoup parlé semi-conducteurs ou acier, mais certains produits beaucoup plus basiques sont aussi devenus difficiles à produire. Ce matin, la moutarde. Et
tiens
oui,
donc.
Les producteurs de Dijon et de Bourgogne sont très tendus. Voici pourquoi, Lauriane Delanoë.
Les fabricants manquent d'abord de graines de moutarde brune. Au Canada, premier producteur mondial, la récolte a été désastreuse à cause de la sécheresse l'été dernier. En Bourgogne, le gel fin avril a entraîné des pertes. Alors Luc Vandermazen, le directeur général de Rennes de Dijon, doit baisser sa production.
Le prix est explosif. Et même si on est prêt à payer, on n'arrive pas à trouver les quantités que nous souhaiterions trouver. Et au-delà de ça, on a des difficultés à se faire livrer. Les conteneurs n'arrivent pas. Et du coup, en fonction du nombre de camions de graines qu'on va recevoir, on va plus ou moins adapter l'activité.
Et tous les prix flambent en ce moment pour les bocaux en verre ou...
La capsule métallique qui ferme le pot. 42% de hausse sur le prix d'une capsule.
Marc Desarméniens dirige la moutarderie Fallot.
Il faut surstocker chaque ingrédient pour éviter toute rupture. L'exemple criant, c'est les bocaux en verre. Là, aujourd'hui, on a un stock dans notre fabrique de plus de 2 millions de pots. D'habitude, on est au quart de ces volumes. Voilà, ça pose quand même de nombreux problèmes d'organisation en termes industriels.
Les fabricants de moutarde vont donc augmenter leur prix dans les prochaines semaines. Il y aura toujours des pots en rayon dans les supermarchés. Le manque se fera plus sentir dans l'industrie agroalimentaire pour la production de mayonnaise, vinaigrette et autres plats préparés.
Lauriane Delanoë, un foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage de canards des Landes au pays du foie gras. 2500 oiseaux ont été abattus samedi et 15 communes sont placées sous surveillance. Il n'y avait plus eu de cas dans les Landes depuis l'hiver dernier. 3,5 millions de volailles avaient alors été supprimées. Facile pour le PSG hier soir en 16e de finale de la Coupe de France. Victoire 3-0 sur Feni Aulnois, club de 5e division. Pas de surprise en général pour les grands clubs, sauf pour Metz et Angers qui sont tombés face aux amateurs de Bergerac et de Linas Montlhéry. Enfin, c'est le roman d'aventure par excellence, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, déjà massivement adapté à l'écran. Le revoilà sur France 2 à partir de ce soir, sous forme de série en 8 épisodes. C'est une grosse production, Alexandra Hakoun, et un excellent divertissement familial pour les fêtes.
Je vais faire le tour du monde en 80 jours.
C'est le pari incroyable dans lequel se lance Phileas Fogg, gentleman qui n'a jamais osé quitter Londres.
C'est l'homme le plus casanier qui existe sur Terre.
Oui, mais voilà, Phileas a été piqué au vif par une carte postale dont le mystérieux expéditeur le traite de lâche, accompagné de son nouveau valet de chambre.
Passe-partout, monsieur. À votre service.
Et d'une journaliste, Abigail Fix, pour qui non n'est pas une réponse.
Je vais couvrir vos exploits pour le Daily Telegraph.
L'inconscient se jette dans l'aventure.
J'ai une mouche dans mon œil.
Beaucoup d'humour, de rebondissements et de grands espaces dans cette adaptation libre du roman de Jules Verne à 3 millions d'euros l'épisode, pour laquelle France Télévisions s'est alliée avec la RAI en Italie et la ZDF en Allemagne. Très clairement, toutes les cases ont été cochées pour satisfaire une audience internationale très 2021. Une star dans le rôle de Phileas Fogg, l'acteur britannique de Doctor Who et Broadchurch, David Tennant. D'ailleurs, tout a été tourné en anglais. Fix n'est plus un inspecteur aux trousses de phoque comme dans le livre, mais une femme résolument moderne.
Nous sommes en 1872. Pensez-vous vraiment que vos lecteurs vont subir un arrêt cardiaque en apprenant qu'une femme a écrit ceci ?
Et Passepartout est noir, bien que personne ne semble s'en apercevoir avant l'épisode 7, où le trio, qui fonctionne à merveille, est confronté à des suprémacistes blancs aux États-Unis. Une saison 2 est déjà en commande, tout comme l'adaptation de Voyage au centre de la Terre, autre roman de Jules Verne, pas question de lâcher le filon.
Et ben voilà, le tour du monde en 80 jours, ce soir sur France 2, avant le tour du monde en 180 secondes d'Anthony Bélanger.
Ah oui, excellente transition, bravo à vous. Florence Paracuelos pour le journal.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Mais avant cela, les prévisions météo avec vous, Marie-Pierre Planchon. Marie-Pierre, attention au brouillard ce matin.
Oui, Jérôme, dans le sud-ouest de Bergerac à Carcassonne, mais aussi dans le Val-de-Saône et dans le centre-est. Et comme il fait froid, eh bien ces brouillards sont parfois givrants. Et côté ciel, un peu répétitif, grisaille au nord de la Loire avec du vent près de la Manche et au nord de l'Atlantique, mais au sud et en montagne, vous allez voir le soleil se lever dans le sud. Donc, mais du bassin aquitain au midi toulousain, la grisaille va rester tenace ce matin sous des températures contrasté entre les moins 7 dans le Lot, moins 2 à Marseille et Bordeaux et les 12 au Cap Corse. Il fait moins 2 à Bordeaux mais 7 à Biarritz, comme à Strasbourg. Vous avez 5 à Paris, à Lille et à Nantes.
Et quelques petites éclaircies au nord cet après-midi.
Oui, elles resteront timides, même si les nuages vont se morceler, tandis que le ciel sera souvent tout bleu au sud d'une ligne qui relierait le bassin d'Arcachon aux Vosges, mais avec des poches de grisaille quand même assez tenaces sur le Val-de-Saône, à l'Auvergne, au Lyonnais et dans la vallée de la Garonne. Et puis près de la Méditerranée, les nuages bas côtier couvre le golfe du Lion et l'ouest de la Corse. Et en journée avec ce petit vent d'est, il va faire plus froid, seulement 0 à Clermont-Ferrand, 2 à Grenoble, 4 à Münster et à Bourges. Vous aurez 6 à Nancy, 7 à Lille et à Caen, 8 à Paris et à Marseille, 10 à Montpellier et quand même 14 à Nice et Ajaccio et 15 à Hendaye. À tout à l'heure.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. Il est 8h16, géopolitique.